Chers amis, nous allons entreprendre cette étude ce matin qui est prévue assez longue. Ce n'est pas à tort d'ailleurs, parce que le sujet est lui-même très, très important. Ce sujet, je le rappelle, il est celui-ci, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. La personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Je vais commencer par vous donner rapidement le plan de cette étude. Il y a trois grandes parties. La première traite de la personne du Saint-Esprit. Alors nous y verrons des désignations, des difficultés possibles. Nous verrons des précisions sur les traits, les caractères de la personne du Saint-Esprit, et nous lui reconnaîtrons les attributs de la divinité. La seconde grande partie, voici comment je l'ai intitulée, le Saint-Esprit en regard de l'existence et de la vie de l'Église. Saint-Esprit dans, si vous voulez, ces manifestations concernant l'existence et la vie de l'Église. Alors là, deux sous-titres, la construction de l'Église, dont le Saint-Esprit est l'artisan, et puis l'œuvre du Saint-Esprit dans la marche de l'Église, la construction et la marche. Et puis enfin, la dernière partie, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'expérience de chacun des membres de l'Église. Dans l'expérience de chacun des membres de l'Église. Alors là, nous avons plusieurs sous-divisions. Nous verrons la vie quotidienne personnelle du chrétien, son service, soit par le témoignage, soit par l'exercice d'un ministère. Ensuite, l'entrée de Jésus dans son ministère, puis le jour de la Pentecôte, ensuite deux aspects des promesses de Dieu, puis comment savoir si l'on a reçu le don, et enfin ce qu'apporte le Saint-Esprit. Ne vous étonnez pas si je disproportionne les temps accordés à ces différentes parties. C'est intentionnellement que je vais le faire, parce que je voudrais accorder le plus de temps possible à la troisième partie, c'est-à-dire à l'œuvre du Saint-Esprit dans l'existence de chacun des membres de l'Église. Je pense d'ailleurs que la personne du Saint-Esprit est déjà connu de vous sous les différents traits que l'Écriture sainte nous permet de recueillir à cet égard. Vous connaissez cela, je parle par conséquent à des frères et des sœurs qui ne sont pas démunis, dépourvus de connaissances. C'est pourquoi, à certains moments, vous verrez que je passe assez vite. Mais je veux surtout m'arrêter sur la troisième partie. C'est celle-là qui doit nous intéresser à plus d'un chef, parce que aujourd'hui, l'Église a besoin de penser comme tout à nouveau tout ce qui lui est enseigné et tout ce qui lui est proposé de l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, commençons par la personne du Saint-Esprit. Comment considérer le Saint-Esprit auquel la Bible fait une, je dis bien la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, la Bible fait une si large place? Le Saint-Esprit est-il, comme d'aucuns le voudraient, une influence, une sorte de fluide, ou une puissance mystérieuse impersonnelle, c'est-à-dire qui ne serait pas elle-même une personne, tout cela, nous le repoussons, bien sûr. Je pense que la conviction est très générale à cet égard. Non, le Saint-Esprit est une personne. Il convient, bien sûr, d'en faire une démonstration scripturaire. Alors, pour cela, nous parlerons déjà des désignations. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que le Saint-Esprit est désigné, ou il est parlé de lui, par le moyen de pronoms personnels. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, au chapitre 16, le Seigneur Jésus lui-même, parlant du Saint-Esprit, sous le nom du Consolateur, le Paraclet, l'Esprit de vérité, dira « Il rendra témoignage ». Pronom donc personnel, un pronom personnel. Il rendra témoignage. Et rendre témoignage ne peut pas être l'action d'une puissance impersonnelle. Puis, je vous l'enverrai, c'est-à-dire, j'enverrai lui, je vous l'enverrai. Encore là, un pronom personnel. Puis, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il convaincra. Remarquons toujours, à côté du pronom, remarquons que le fait de convaincre le monde de péché de jugement, c'est une action qui ne peut être que celle que d'une personne. Nous ne voyons pas vraiment une puissance qui remplirait un rôle, lequel rôle aurait un caractère d'automatisme. Ce n'est pas possible. Pour convaincre, il faut exposer, il faut démontrer, il faut apporter des éléments de conviction, et cela est le fait d'une personne. Nous remarquons au sujet du pronom « il ». Et nous remarquons qu'en grec, il y a trois genres. Le genre masculin, le genre féminin, et un que nous n'avons pas dans la langue française, le neutre. Le genre neutre. Et le mot « esprit » dans le Nouveau Testament est précisément du genre neutre. Cependant, le pronom qui prend la place du mot « esprit » lorsque il désigne le Saint-Esprit, le pronom qui prend la place donc de ce mot « esprit » est mis au masculin. Au masculin dans l'Évangile, si bien que l'Esprit de vérité ou le Consolateur est traité dans le grec grammaticalement comme une personne. Le mot « esprit » donc là perd son genre neutre, le genre neutre qu'il a normalement dans la langue grecque. Il perd ce genre neutre lorsqu'il désigne le Saint-Esprit. Je sais qu'il y a des cas où la forme grammaticale est maintenue, la forme du neutre. Par exemple, dans Romains 8, au verset 16, verset 26. Mais cela est une exception qui peut s'expliquer très bien. Cependant, nous notons que, d'une manière générale, concernant le Saint-Esprit, le genre neutre, contrairement, donc, à la syntaxe, ce genre disparaît pour faire place au genre masculin, qui convient à la désignation d'une personne. Le Saint-Esprit est appelé le Paraclet, c'est ce qui est traduit par consolateur dans nos versions en général, c'est le mot grec parakletos. Et le sens de ce terme est beaucoup plus complet que celui que rend la traduction par le mot consolateur. Parakletos signifie défenseur, porte-parole, avocat. Avocat. Par exemple, dans 1 Jean 2:1, première épître de Jean, 2, chapitre 2, et verset 1er, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, et c'est le mot paraclétos. » Donc, vous voyez, il n'a pas toujours uniquement le sens de consolateur, mais aussi celui d'avocat. Le mot ne peut donc s'appliquer qu'à une personne. On ne peut pas appliquer, voire dans une force impersonnelle, le rôle de consolateur, d'avocat, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas s'accorder. Et puis, je vous rappelle que ce que Jésus a dit, et qui se trouve à la fin de l'évangile de Matthieu, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pour être placé dans cette formule, si l'on veut, pour être placé à côté du Père et du Fils, il faut bien admettre que le Saint-Esprit est une personne. On ne verrait pas au nom du Père, du Fils et d'une puissance quelconque, une puissance impersonnelle. Le fait que le Saint-Esprit prend place dans cette énumération trinitaire montre bien aussi qu'il est une personne. Et puis, au nom de, si le Saint-Esprit était une force impersonnelle, on ne pourrait pas dire au nom de. On ne va pas dire, par exemple, nous avons de la lumière, merci au nom de l'électricité. Hein. Au nom de quelqu'un, il est impossible que ce soit une chose, le nom est toujours associé à une personne. Mais il y a des difficultés, et ce sont ces difficultés qui ont fait que certains n'ont pas accepté la personnalité du Saint-Esprit, et l'ont vu comme une puissance. Le Saint-Esprit n'a ni corps, ni forme, ni localisation dans l'Écriture. C'est vrai, il faut le reconnaître, mais il possède les caractères essentiels de la personnalité, intelligence, volonté, sensibilité, bonté, amour, sagesse, parole, etc. N'ayant ni corps, ni forme, il est aussi désigné par des symboles. C'est ce qui fait qu'il est surtout désigné par des symboles. Son action est vue à travers des symboles. Le vent ou le souffle, l'eau, le feu, l'huile, la colombe venant se poser sur le Seigneur Jésus. Ces opérations sont invisibles sauf par leurs effets. Elles sont secrètes, elles sont internes, autrement dit, le Saint-Esprit n'est jamais venu, ne s'est pas présenté sous forme de théophanie, c'est-à-dire d'apparition, comme c'est le cas de Dieu, de Jésus-Christ. Rappelons même que dans le prophète Zacharie, nous voyons l'Éternel, Yahvé, qui est là, près d'un petit bois d'arbustes, et puis qui prie l'Éternel. L'Éternel, Yahvé, prie Yahvé, et Yahvé répond. Hein, voyez-vous, nous avons là, par conséquent, des signalisations de la personne du Père, de la personne du Fils. Alors le Fils, lui, il est venu lors de l'incarnation, il s'est présenté comme un simple homme, comme un homme, tandis que le Saint-Esprit, lui, reste absolument en dehors de ses formes. Il ne parle jamais de lui-même. jamais le Saint-Esprit ne parle de lui-même. Est-ce qu'il faut voir la raison de cela du fait que Jésus a dit qu'il ne parlerait pas de lui-même, c'est-à-dire, il a voulu dire, de son propre fond. Mais il ne parle pas de sa personne, voyez-vous. Il ne parle pas de sa personne. Certains ont buté là-dessus. Il ne se présente pas lui-même comme le font Dieu le Père et Dieu le Fils. Il ne se présente pas lui-même. Par exemple, Dieu dira dans le psaume 50, « Je suis Dieu, ton Dieu ». En Ésaïe 41, même chose, Dieu se présente. Dieu a même donné son nom à Moïse. Dieu se présente lui-même. Quant à Jésus, il s'est présenté plusieurs fois, et je pense à Jean 10, 36, où il s'étonnait que on veuille le contredire et s'opposer à lui du fait qu'il avait dit « Je suis le Fils de Dieu ». Je suis le Fils de Dieu. Par conséquent, le Père s'est présenté, le Fils s'est présenté, le Saint-Esprit, lui, ne se présente pas lui-même. Il n'attire jamais l'attention sur lui-même, mais toujours sur la volonté de Dieu et sur la voie du salut. Il n'est pas un dépendant de Dieu ni de Christ. Dans Romains 8, par exemple, c'est là un passage assez remarquable, Romains 8, je lirai au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu, habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, c'est le même. Il est appelé l'Esprit de Dieu, voici qu'il est appelé l'Esprit de Christ. Quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Il est aussi appelé, donc, dans le contexte, vous le voyez, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Par conséquent, nous disons que le Saint-Esprit n'est pas indépendant de Dieu et de Christ. Il est appelé l'Esprit de Dieu, quand il le faut, l'Esprit de Christ également. Et cependant, Dieu l'envoie. Il reste dépendant de Dieu et de Christ, mais Dieu envoie. Le Seigneur Jésus, quittant cette terre, retournant au Père, a bien dit, « Je vous l'enverrai. Si je ne partais pas, je ne vous l'enverrai pas, je ne pourrais pas vous l'envoyer, mais maintenant, je retourne au Père, et je vous enverrai un autre Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. » Donc, et puis dans d'autres passages, nous voyons aussi que le Saint-Esprit est envoyé. Bien que l'Esprit Saint soit l'Esprit de Christ, l'Évangile de Jean déclare que Jésus quitte la terre et que le Saint-Esprit vient prendre sa place. Jésus étant lui-même le premier consolateur, paraclet, il est appelé ainsi d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux. Lorsqu'il intercède, il est vu comme lui un consolateur. D'ailleurs, si Jésus a dit un autre consolateur, ça voulait dire un autre consolateur que moi-même. La distinction est donc nette entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont des personnes différentes, parlant l'une de l'autre, parlant l'une à l'autre. Nous sommes là, évidemment, en plein cœur du mystère de ce qu'on appelle la Trinité, ou la Triunité, peu importe. Il n'y a qu'un seul Dieu révélé en trois personnes divines. Je vais maintenant aller un petit peu plus vite sur la personne du Saint-Esprit. Je rappellerai que les caractères de la personne du Saint-Esprit sont à voir, à découvrir dans les actions que j'énumère rapidement. Le Saint-Esprit sonde les cœurs, il guide la prière, il intercède, tout cela vous le savez. Il distribue les dons spirituels comme il l'entend, comme il le veut. Il distribue les dons spirituels comme il le veut. Dans 1 Corinthiens 12, dans l'Épître aux Hébreux également, nous avons cette assertion-là. Il répand l'amour de Dieu dans les cœurs. L'amour de Dieu est versé dans les cœurs par le Saint-Esprit, dit Romains 5, 5. Et nous pouvons l'attrister. Il est par conséquent doué de sensibilité. Il révèle les choses cachées et préparées par Dieu. Il enseigne toute la vérité. Jésus-Christ, je l'ai déjà dit, le désigne comme un autre, merci beaucoup, un autre consolateur. J'irai également vite en signalant, rappelant les attributs de la divinité. Le Saint-Esprit, lui, est éternel. Nous le voyons dans l'Épître aux Hébreux, version Darby surtout, Épître aux Hébreux, chapitre 9 et verset 14. Combien plus le sang de Christ, par un esprit éternel, s'est offert lui-même. Par un esprit éternel. Oui, dans la Tobe, dans la traduction œcuménique, il y a par l'esprit éternel, non pas par un esprit éternel, ce qui pourrait être entendu différemment, mais par l'esprit éternel. Le Saint-Esprit est omniprésent puisqu'il peut agir en tout lieu et dans un même moment. Il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il dispose de la toute-puissance, la puissance infinie de Dieu. Par exemple, la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, dans le chapitre premier de l'évangile de Luc, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, est-il dit, à Marie. Il est omniscient, puisqu'il sonde les profondeurs de Dieu. Nous avons cette affirmation dans 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11. L'apôtre Paul nous dit que à ceux qui l'aiment, Dieu révèle les choses cachées et le Saint-Esprit sonde par le Saint-Esprit, il révèle ces choses par le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il possède l'action créatrice. Je rappellerai ce passage notamment du psaume 104. Tu envoies ton esprit, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Et puis, nous étions tout à l'heure dans Romains 8. Je reprends le verset 11. Et si l'esprit qui a ressuscité Jésus, vous voyez, l'esprit qui a ressuscité Jésus, et la résurrection est une manifestation de la puissance créatrice. Jésus, d'entre les morts, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Nous avons donc en nous l'Esprit Saint, un esprit qui dispose de la force créatrice pouvant nous ressusciter quand le dernier jour sera venu. En définitive, Dieu agit par son esprit et son esprit est bien l'Esprit Saint. La science dit elle-même pas peut-être unanimement, mais ceux qui sont libres de voir ainsi les choses, ont pu dire, des scientifiques ont pu dire que la matière est fille de l'esprit, et combien cela est vrai. Voilà pour la première partie sur la personne du Saint-Esprit. Nous allons aborder maintenant le Saint-Esprit en regard de l'existence et de la vie de l'Église. Nous disons d'abord que sans la venue du Saint-Esprit, il n'y aurait pas d'Église sur la terre. Ben, c'est fondamental que quelqu'un me montre l'existence possible d'une Église sans le Saint-Esprit, je voudrais bien l'entendre. Il n'y a pas d'église possible sur la terre. Il pourrait y avoir des sociétés de croyants, des sociétés amicales peut-être, mais pas d'église. Le Saint-Esprit est lui-même le constructeur et le moyen de l'église, le moyen d'existence de l'église. Il est le constructeur et c'est à lui qu'est due l'existence de l'église. Et quand Jésus retourne au Père, quittant cette terre, il l'a prononcé préalablement sur la croix, cette parole, tout est accompli. Tout est accompli. Donc, l'œuvre de rédemption est faite. Elle est parfaite, il n'y a rien à y ajouter. Que faut-il faire alors désormais, si tout est accompli, il n'y a plus rien à faire? Que faut-il faire? Si, il y a quelque chose à faire. Il faut faire valoir la rédemption, c'est-à-dire les biens du maître. Les biens du maître ne peuvent être que ce que le maître a lui-même acquis, c'est-à-dire ce qui se nomme en gros la rédemption en Jésus-Christ. Bon, alors, je dis faire valoir parce que j'emprunte cette expression à Luc 19, 13, Luc 19, 13. Nous sommes là dans la parabole des mines, et voici ce que dit le Seigneur Jésus. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Voilà la mission de l'Église, faire valoir les biens du Maître, c'est-à-dire la puissance de rédemption. Ce mot est global, n'est-ce pas? La puissance de rédemption. C'est-à-dire qu'à partir des 12 apôtres, à partir des 120 que nous voyons réunis le jour de la Pentecôte, il va s'agir d'édifier une maison spirituelle, selon l'expression de l'apôtre Pierre, une maison spirituelle avec des pierres rendues vivantes par l'œuvre de la rédemption. Et il va falloir constituer et sans cesse élargir le peuple acquis. Un peuple acquis, ce sont des expressions de la première épître de Pierre, chapitre 2, vous les connaissez. Une maison spirituelle avec des pierres vivantes pour constituer le peuple acquis, que Dieu s'est acquis. Voilà l'œuvre de l'Église. Et cette œuvre-là, elle est tout entière celle du Saint-Esprit, à travers les hommes qualifiés par lui, mais elle est tout entière l'œuvre du Saint-Esprit. Pour la bonne raison, chers amis, c'est que si, étant membre de l'Église, l'on voulait s'aviser de participer à cette grande œuvre, qui est l'œuvre de Dieu, d'être par conséquent ouvrier avec Dieu, mais selon des pensées qui seraient propres à l'homme, selon des initiatives qu'il prendrait lui-même, en s'efforçant de trouver sa force dans la rhétorique, par exemple, ce que l'apôtre Paul s'est refusé. Lui, il a voulu apporter une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà comment il a prêché l'évangile. Alors, si l'on s'avisait à ça, si quelqu'un s'avise à ça, il travaille par les ressources de l'homme, par les ressources de la chair. Et Dieu ne le veut pas. Dieu ne pourrait pas le bénir. Dieu ne pourrait pas honorer son travail. Il bâtirait, peut-être, il serait de ceux qui bâtissent avec du foin, de la paille, du chaume. Et lors du feu de l'épreuve, tout cela serait consumé. Il faut bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et pour bâtir ainsi, il faut bâtir avec le Saint-Esprit, ou plus exactement, être vraiment ouvrier avec Dieu, c'est-à-dire être animé, qualifié par le Saint-Esprit. Il va s'agir pour l'Église d'entrer dans l'exercice d'un sacerdoce royal universel, en annonçant les vertus de celui qui fait sortir des ténèbres pour paraître à son admirable lumière. Il faut annoncer les vertus, tout cela, Pierre le dit dans son chapitre 2. Vous le savez, je ne vais pas vous relire tous ces textes, ça demanderait du temps, mais vous connaissez ces passages, ils sont tellement évidents, mis en évidence. Entrez dans l'exercice d'un sacerdoce royal universel, en annonçant les vertus de celui qui fait sortir des ténèbres pour paraître à son admirable lumière. Mais ce n'est pas tout d'annoncer. Annoncer, ça ne veut pas dire simplement introduire des idées, une sorte de philosophie, une sorte de proposition purement humaine. Annoncer, ça veut dire apporter précisément cette vérité, essentielle qui est accompagnée de puissance. S'il n'y a pas de puissance dans mes paroles, je suis un discoureur. Nous aurons l'occasion de revoir ça. Je ne serai pas autre chose qu'un discoureur. Peut-être habile. J'aurai peut-être les mots, bien choisis. Peut-être une élocution qui sera heureuse. Mais si je n'ai pas, si je ne travaille pas, si je ne fais pas cela avec le Saint-Esprit, parce que qualifié, parce que animé même par le Saint-Esprit, eh bien, je n'apporterai pas avec mes paroles la puissance d'action, la puissance d'opération. Annoncer les vertus de celui qui fait sortir des ténèbres pour paraître à son admirable lumière, il faut que l'annonce puisse réellement faire sortir quelqu'un des ténèbres. Et cela, ce n'est pas à la discrétion des ressources de l'homme. Cela est l'œuvre même de Dieu. Il faut toute la sagesse, il faut tout l'amour, il faut toute la puissance de Dieu lui-même. Et nous aurons l'occasion tout à l'heure de voir précisément la relation qu'il y a entre sagesse, amour et puissance ou force. Nous verrons cette relation. C'est tellement vrai que l'apôtre Paul ne peut pas s'empêcher de s'écrier « Mais qui est suffisant pour ces choses ? Qui est suffisant ? Personne n'est suffisant pour ces choses. Voudrait-on se considérer comme suffisant pour de telles choses ? C'est l'œuvre de Dieu. Il faut que Dieu soit là. Il faut que Dieu soit à pied d'œuvre. Il va mettre en action d'immenses ressources. Nous ne soupçonnons peut-être pas toujours les ressources de la puissance de Dieu qui se glisse. La puissance de Dieu n'a pas toujours des actions spectaculaires. Ce ne sont pas les plus nombreuses, d'ailleurs. Elle a des actions pénétrantes, l'œuvre de Dieu. Il faut que des hommes collaborent avec lui, et j'ai rappelé cette expression, il faut que des hommes soient ouvriers avec Dieu. Dieu ne sera plus le Christ visible en son corps ressuscité, qui alors Si Christ était resté sur la terre, s'il n'était pas retourné au Père après résurrection, le Christ aurait été un exemple à suivre. Et il serait resté en dehors de ses disciples. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Et il avait bien dit, le Saint-Esprit qui est avec vous, il sera en vous, au futur, il sera en vous. Quand je serai retourné au Père, quand j'aurai envoyé le Saint-Esprit, il sera en vous, le Saint-Esprit. Alors ça, nous sommes tous d'accord sur le fait que quelqu'un qui est né de nouveau a en lui l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Mais si le Christ était resté sur la terre, il serait resté en dehors de ses disciples, il serait resté extérieur à eux. Mais ce n'est pas cela. Le Christ ressuscité, n'était pas cela le plan de Dieu. Christ ressuscité sera glorifié, et quand il sera glorifié, alors l'Esprit sera répandu. Je fais allusion à Jean 7, la proclamation du Seigneur Jésus à Jérusalem. Celui qui a soif vienne à moi, que celui qui croit, pour celui qui croit, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein, comme dit l'Écriture. Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, mais quand il serait lui-même glorifié. Tout cela, nous le savons. Ainsi se construira, c'est ainsi que se construira, un temple saint. Un temple saint. Il y a je fais allusion à un verset des Éphésiens que je vais vous lire dans le chapitre 2, chapitre 2, verset 19 des Éphésiens. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà comment doit être l'Église, ce que Dieu veut que soit l'Église. Et comment voulez-vous réaliser un pareil plan sur les bonnes résolutions, les bonnes intentions, le dévouement même humain? Impossible, absolument impossible. Il faut une puissance. À tout ce qui se fait dans le monde aujourd'hui, pour tout ce qui se fait, il faut une puissance. Nous savons très bien que le monde aujourd'hui lui-même, dans ses œuvres propres, est toujours à la recherche de l'énergie. De l'énergie, il en faut. On ne peut rien faire sans énergie. Eh bien, là, il faut une énergie qui est bien particulière. C'est celle que le Saint-Esprit, lui seul, est capable d'apporter. Alors, voyons la construction de l'Église, rapidement. Reportons-nous au jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit promis descend. Et pour ce début de l'œuvre, il faut qu'on voie l'Esprit et qu'on l'entende. Si bien que le récit de ce jour, dans chapitre 2 des Actes, nous dit qu'il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux, des langues semblables à des langues de feu se montrent, se posant sur chacun de ceux qui avaient été réunis là pendant 10 jours et qui avaient prié. Ils sont remplis du Saint-Esprit, nous dit ce texte, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et les 120, puisque tel est leur nombre, se mettent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, et les Juifs de nations diverses qui étaient là, qui étaient accourus, les entendaient parler chacun en sa propre langue. Ce jour-là, l'Église naissait. Ce jour-là. Voilà sa naissance. Nous reviendrons sur les apôtres et sur les 120 au jour de la Pentecôte. Je ne vais pas m'y arrêter plus longuement maintenant. Mais voyons la construction de l'Église, œuvre du Saint-Esprit. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 12, et verset 1. Alors là, je vais vous relire ce texte. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez patient, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, alors là nous voyons l'Église, n'est-ce pas, il nous est parlé de l'Église, le corps de Christ, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Là, ce chapitre 12 de 1 Corinthiens, elle nous montre que l'Église est un corps, forme un corps, un organisme vivant, avec des membres. Et tout le monde s'accorde à dire qu'il ne s'agit pas là d'une simple comparaison, mais que vraiment la notion de corps est absolument elle-même très objective, très réaliste. Un organisme vivant, avec des membres, des organes aux fonctions différenciées. Ce que nous voyons dans les organismes vivants. Là, ce sont les termes des biologistes, cela, les fonctions différenciées. Et nous voyons cela dans l'Église, dans le corps qu'est l'Église, des fonctions différenciées. L'Église étant un corps, elle a besoin de ces fonctions différenciées. Elle a besoin de cette diversité de fonctions. Celles-ci sont nécessaires à la vie. La diversité, par conséquent, des dons et des fonctions ministères s'accorde avec la doctrine du corps. qu'est l'Église, corps de Christ, chers amis. Et cela est inchangeable au cours des âges. Il n'y a pas de possibilité d'abandon de quelque chose dans cette doctrine que nous expose ici l'apôtre Paul. La diversité des dons et des fonctions s'accorde avec la doctrine du corps. Diversité de ministères et unité du corps vont ensemble. Il n'y aurait pas d'unité du corps s'il n'y avait pas diversité des fonctions. Et la diversité des fonctions, elle n'est pas abandonnée au choix et à la discrétion de la pensée humaine. C'est le Saint-Esprit qui choisit. Le Saint-Esprit qui choisit. C'est pour ça que cela est dit. À chacun en particulier, comme il veut. C'est-à-dire, non pas comme vous voulez, vous, ou comme vous voudriez, ou comme vous pourriez peut-être le faire, humainement, sur un plan humain. Mais comme le Saint-Esprit, lui, le veut, parce que c'est le Saint-Esprit qui va donner l'animation et la force à ces fonctions-là. Il faut donc bien se garder de voir quelque chose de passager dans l'enseignement de 1 Corinthiens 12 et même 1 Corinthiens 14. Car en faisant disparaître la diversité des dons et des ministères, comme j'ai vu quelquefois qu'on le faisait dans certaines interprétations, eh bien on fait disparaître la réalité du corps. Si je fais disparaître la diversité des fonctions, si je n'en veux plus, si je dis il y a quelque chose là qui peut être permanent, mais il y a d'autres choses qui ont passé, qui ne sont plus pour aujourd'hui, alors là je fais disparaître la réalité du corps. Et je condamne l'Église à ne plus être un corps, mais à être une réunion d'hommes bien intentionnés, certes, mais qui ne pourront pas accomplir l'œuvre à laquelle Dieu destine son Église. Le Saint-Esprit va continuer d'assurer la distribution des dons jusqu'au terme de l'Église, faute de quoi le Saint-Esprit lui-même laisserait le corps s'éteindre. Si dans un corps, puisque la comparaison est faite, on supprime l'ouïe, on supprime la vue, on supprime les membres, les mains, on supprime quelque chose, des organes peut-être intérieurs au corps, n'est-ce pas ? Eh bien, où conduit-on le corps ? À la mort. C'est tellement vrai aujourd'hui que, vous voyez, on fait des greffes d'organes. Par conséquent, plus ça va, n'est-ce pas ? Plus il y a de nouveaux organes que l'on soumet à cette technique chirurgicale de la greffe d'organes, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que, bon, on sait très bien qu'un corps doit vivre avec tous ses organes. Sans ça, il n'est plus le corps vivant. Et cela, nous pouvons le dire de l'Église. Le verset 12 devrait logiquement se terminer. Le verset 12 que nous avons lu, et je le relis. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ce verset 12 devrait se terminer logiquement par ainsi en est-il de l'Église, qui est le corps de Christ. Et l'apôtre écrit, et n'oublions pas que tout est inspiré, nous croyons à l'inspiration verbale des Écritures, c'est-à-dire de verbum, du latin verbum, au mot près, n'est-ce pas ? Bon, alors, l'apôtre Paul dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme un corps humain par exemple, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, oui, un seul corps, ainsi en est-il de l'Église, qui est le corps de Christ. Non, il dit, ainsi en est-il de Christ. Si bien que là, il se sert de la désignation Christ pour désigner l'Église. L'Église, là, il n'hésite pas à l'appeler Christ. Et cette désignation, ce mot, désigne l'Église, c'est-à-dire le corps et la tête. Par conséquent, tout cet enseignement du chapitre 12 est constitutif de l'Église, chers amis, oh, comme je voudrais que vous conveniez de cela. Il est constitutif de l'Église, ce n'est pas une interprétation bien compliquée, n'est pas une exégèse savante, c'est ce que dit, ce qu'exprime, ce que nous venons de lire. Tout cet enseignement est constitutif de l'Église et ne peut en rien être considéré comme caduc. Il n'y a rien qui puisse être considéré comme caduc. L'ensemble Christ-Église est à voir dans la pensée d'une seule chair, un seul être, un seul être. Je pense à Éphésiens 5, verset 31, Éphésiens 5, verset 31, que voici, Éphésiens 5, verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand, le mystère contenu dans quoi ils seront une seule chair. Une seule chair. Et puis, je ferai allusion, simplement allusion, à l'enseignement du Seigneur sur le cep et les sarments. Le cep et les sarments. Ne faut-il pas, dans cette parabole de Jean 15, que les sarments restent attachés au cep et recevant du cep la sève vivante? Si cela n'est pas, et si un sarment dépérit, ne portant pas le fruit attendu, on le coupe. On le coupe. Il est gênant, il occupe une place inutilement, il fait du bois qui ne répond pas à l'attente de celui qui, du vigneron, et le vigneron c'est le Père Céleste, par conséquent on le coupe et on le jette au feu. Ce qui veut bien montrer qu'il faut là encore, nous avons une autre image, une autre figure, l'Église soit bien comme le cep avec ses sarments, et tous les sarments sont vivants. Ils sont vivants, non pas par leur propre vertu à eux, parce qu'ils reçoivent la cèpe vivante, la sève vivante du cep. Ainsi, le Saint-Esprit construit l'Église et son but est d'en faire un seul assemblage, bien coordonné. Nous avons particulièrement cela dans Éphésiens chapitre 4, au verset 14 à 21, verset 16. C'est de lui, de Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, le corps, l'Église, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement. C'est du Christ qu'il tire son accroissement. Selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie, c'est-à-dire se construit lui-même dans l'amour. Le verset 16 est toute une révélation du dessein de Dieu qu'accomplit le Saint-Esprit. Car c'est de lui, c'est de Christ. Mais nous savons que maintenant, nous ne connaissons plus Christ comme il a été connu par les apôtres. Pour nous, le Seigneur, c'est l'Esprit, dit Paul. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Bien. Alors, le verset 16 est une révélation, en effet, du dessein de Dieu qu'accomplit le Saint-Esprit. Nous retrouvons le corps vivant, et ce corps a différentes parties ou organes, ou membres qui le constituent. Chacune de ces parties reçoit la force qui lui convient selon sa fonction, et ainsi le corps s'augmente. Il s'augmente dans son milieu, le milieu qui lui est propre. Quel est ce milieu ? L'amour. il s'augmente dans le milieu qui lui est propre. Au sujet de la force qui convient à chacune de ces parties, je vous rappellerai ce que dit Paul dans Romains 12. Il faut revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et cette phrase est assez mal comprise. Il ne s'agit pas de limiter la foi. Dieu ne limite pas la foi, au contraire, il veut qu'elle grandisse. Paul donne le conseil de ne pas déborder sa vocation. La mesure de foi, il veut dire les aptitudes reçues de Dieu pour l'exercice de la foi de chacun. Hein? Alors, c'est ici un conseil de ne pas déborder sa vocation ou les aptitudes reçues. La chose est bien exprimée dans Parole vivante d'Alfred Kuhn. Je ne l'ai pas là sous la main, mais vous pourrez au besoin consulter cela. C'est Romains 12, versets 3 à 8. La façon dont il a exprimé cela est bonne. Voilà.